Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute. Et avant de nous retrouver au ciel auprès de notre Dieu, bien nous allons lire sa parole et nous allons écouter deux textes qui seront les bases de la prédication. Le premier, dans l'Épître à Timothée, au chapitre 1, les versets 3 à 20. Et ensuite, nous entendrons encore la lecture de Acte 4, les versets 5 à 12. Acte 4, les versets 5 à 12. Mais nous commençons par entendre 1 Timothée 1, versets 3 à 20.
Alors 1 Timothée 1, verset 3. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse usage, un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier de tout en moi, le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Et on tourne en arrière dans le livre des Actes. Chapitre 4, et ce sera les versets 5 à 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent: « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chef du peuple et anciens d'Israël, On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés.
Merci. Lire et chercher à comprendre un livre sans que l'auteur nous révèle son intention et son but, c'est comme lire la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide de l'auteur, le texte biblique n'est qu'une littérature étudiée laborieusement. Alors qu'avec l'Esprit, c'est la parole vivante dont la voix agit avec puissance pour purifier et pour donner une confiance certaine. Nous comptons donc ce matin encore sur l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans nos cœurs. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ça vous rappelle quelque chose? Premier verset de 1 Timothée. Paul, apôtre de Christ Jésus, et non de lui-même. En fait, les paroles de 1 Timothée sont à recevoir comme les paroles de Jésus lui-même. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, et non autoproclamé. Paul agit au nom souverain qui lui a ordonné d'être apôtre. Dieu est sauveur, il est Père, Jésus-Christ est notre espérance, il est notre Seigneur. Le Saint-Esprit, par Paul, adresse la lettre que nous étudions à Timothée, dont le nom signifie « qui honore Dieu ». Une lettre pleine d'affection, d'un Père spirituel qui souhaite la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu. En fait, tout cela, nous l'avons vu la dernière fois dans la première prédication de cette série sur 1 Timothée. Et cette lettre est écrite par un apôtre fondateur comme il n'y en a plus maintenant. Et c'est le verset 3 qui nous indique que Timothée est à Éphèse, un lieu où Paul a résidé pendant 2 ans et où Dieu agit de manière extraordinaire. Voici ce qui est dit dans Acte 19, je vous lis le texte, verset 10. « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » L'évangile de Jésus-Christ était prêché avec puissance à Éphèse et beaucoup se sont convertis. L'évangile de Jésus-Christ a été prêché avec puissance à Éphèse et beaucoup se sont convertis, confessant leurs péchés, se détournant de leurs pratiques mauvaises telles que la sorcellerie. Vous pouvez relire ça dans Acte 19. Donc l'évangile de Jésus-Christ était prêché avec puissance à Éphèse. Beaucoup se sont convertis, confessant leurs péchés, se détournant de leurs pratiques mauvaises, telles que la sorcellerie. Mais Paul n'est plus à Éphèse. Et il avait d'ailleurs rencontré les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, quelques mois après son départ. Il leur avait dit ceci, ça c'est dans Acte 20, on peut le lire au verset 28 à 30, que je vous lis aussi, où il dit à ces anciens de l'église d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Et voilà que ce qu'il a annoncé s'est malheureusement accompli. Et il va donc faire une recommandation à Timothée dans le premier chapitre de cette épître à Timothée. Le titre de cette prédication est d'ailleurs « L'Évangile face aux fausses doctrines » et comme sous-titre « une recommandation ayant l'amour de Christ au centre. Et on pourrait dire que le passage clé, c'est 1 Timothée 1,5. Regardez toujours votre Bible ouverte dans 1 Timothée, non, on va y revenir régulièrement. Et là, on peut déjà lire ce verset qui dit « Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » Alors, juste pour commencer, qu'est-ce que le terme « recommandation » évoque en vous ? À quoi vous pensez lorsqu'on dit « je vous donne une recommandation » ? Alors, pour certains, il s'agit d'un avis, d'un conseil. Je te recommande de plutôt acheter une voiture brune qu'une voiture blanche parce qu'en fait, on voit moins les salissures. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais c'est un conseil. Je te recommande, c'est un conseil. On peut même le remettre en question. Excellent, merci. C'était pas prévu, mais c'était parfait. Mais le terme traduit par recommandation utilisé par Paul, guidé par le Saint-Esprit, n'est pas une option. C'est un ordre, un commandement, une prescription. Timothée, tu dois le faire, tu n'as pas le choix, c'est un ordre. Mais il faut que tu saches que le but de cette recommandation, c'est l'amour. C'est l'amour. Un amour ardent pour Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'un amour profond et vibrant pour Christ produit ? Eh bien, il produit une jalousie qui pousse à enlever tout ce qui fait de l'ombre à Christ, à son évangile, qui doit rester pur et qui doit remplir notre cœur. Un amour ardent pour Jésus-Christ nous rend jaloux pour lui. On veut que rien ne vienne entacher Jésus et son évangile. L'amour pour Christ produit également le rappel de son œuvre de salut et la bonne conscience qu'il nous accorde par sa grâce. L'amour pour Christ a encore un autre effet, une vie de foi sans hypocrisie, où l'on cherche à garder une bonne conscience, aimant ce qu'il aime et détestant ce qu'il déteste. En fait, ce passage de 1 Timothée 1,5 nous donne le plan de la prédication d'aujourd'hui. Regardez, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Le premier point, ce sera la pureté. Timothée doit stopper ceux qui salissent ou même égarent de la saine doctrine de l'évangile glorieux de Jésus. Ce sera notre premier point, la pureté. Deuxièmement, la bonne conscience. Timothée doit se souvenir d'où vient l'évangile, comment avoir une bonne conscience. Et le troisième point, la foi sans hypocrisie. Timothée doit combattre de manière à ne pas faire naufrage. Et c'est ce que nous verrons dans le troisième point. Commençons donc par la pureté dans les versets 3 à 11. J'aimerais relire ce texte, qu'on l'ait bien en tête. Regardez avec moi dans vos Bibles. 1 Timothée 1, les versets 3 à 11. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est en outre opposé à la saine doctrine d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Jusqu'ici, ce premier point. Quelle est la recommandation de Paul à Timothée ? Vous savez, la Bible, elle n'est pas compliquée. Elle est parfois très profonde, mais elle est compréhensible. Et les versets 3 et 4 et 6 sont clairs. L'ordre est simple. Timothée doit empêcher des personnes d'enseigner d'autres doctrines et de s'attacher à des discussions inutiles. Voilà, c'est ça la recommandation. Timothée doit empêcher des personnes d'enseigner d'autres doctrines et s'attacher à des discussions, donc les empêcher aussi de s'attacher à des discussions inutiles. Or, le Saint-Esprit, par Paul, ne nous indique pas les détails des faux enseignements qui étaient répandus. Il y a toutes sortes de choses qui ont été écrites à ce propos-là. Mais ce que nous savons, c'est que c'est à l'opposé de la saine doctrine d'après le glorieux évangile qui a été confié à Paul. C'est vrai qu'au verset 7, par contre, il nous indique que ces enseignants veulent être vus comme des personnes qui ont une grande connaissance de la loi. Ils disent connaître les règles que Dieu veut que nous suivions. Ce sont des personnes qui mettent des poids de « il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, tu dois obéir à cela, et si tu veux être un bon chrétien, il ne faut pas oublier d'en faire plus encore que ce qui t'est demandé », évidemment. Cela fait vraiment penser à ceux que Jésus reprend et qui étaient considérés comme des docteurs de la loi dans Marc 7. Quand Jésus leur répond, il leur dit « Ésaïe a bien prophétisé contre vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Les docteurs de la loi, en fait, utilisaient la loi autant pour créer des traditions de leur invention que pour essayer de transformer le cœur, alors que la loi n'est pas faite pour cela. Et là, 1 Timothée 1,9 nous donne une lueur de l'évangile qui commence à se faire sentir déjà. Vous avez déjà vu ce qui est écrit là ? La loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour le juste. Un peu comme la lumière qui entre dans un garage tout sale. Hein. Tant qu'il n'y a pas de lumière, ce n'est pas possible de voir qu'il y a cette saleté. D'accord ? Mais quand la lumière arrive, on la voit. Par contre, quand la lumière arrive, est-ce que ça nettoie la saleté ? Non. La lumière ne nettoie rien du tout. Elle montre cette saleté. Quand vous allumez la lumière dans votre cave, ce n'est pas tout à coup tout qui se nettoie et qui se met en place. Non, c'est tout à coup toute la saleté qui se voit et qu'il faut nettoyer, etc. Et il faut ensuite nettoyer. Mais ça, on le verra par la suite ce que ça signifie. Pour l'instant, comprenons une chose et réfléchissons à ce que Paul dit à Timothée dans les versets 9 à 11. En 1 Timothée 9 à 11, nous trouvons une liste qui fait le tour des 10 commandements. Et j'espère que vous le connaissez par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un projecteur qui éclaire les recoins de votre maison âme humaine et voit tout ce qui est à nettoyer. La loi est là pour nous montrer ce qui est à nettoyer. Donc en 1 Timothée 1, 9 à 11, nous trouvons une liste qui fait le tour des 10 commandements. J'espère que vous les connaissez par cœur, mais on va voir. Et parce que c'est votre projecteur pour éclairer tous les coins de votre maison âme humaine et voir tout ce qui est à nettoyer. Alors, les 4 premiers commandements sont directement en lien avec notre relation avec Dieu. Hein, alors, les enfants, ils commencent à connaître parce qu'on voit un petit peu ça ensemble. Hein. Les 4 premiers commandements, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Le troisième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et le quatrième, tu respecteras le jour du sabbat qui est sanctifié par Dieu. Et 1 Timothée 1,9, ces 4 premiers commandements mettent un coup de projecteur en fait, sur les différentes choses qu'il décrit ici. Les méchants, littéralement, ce sont les sans-loi. Les sans-loi. Les indisciplinés, littéralement, les non-soumis. C'est en lien avec ces 4 premiers commandements. Les impies, littéralement, ceux qui n'honorent pas. Les pécheurs, littéralement, ceux qui s'éloignent de la loi de Dieu. Les sacrilèges, littéralement, les non-saints, les sans-religion. Et les profanes, littéralement, ceux qui sont sans respect pour les choses de Dieu, pour ce qui est sacré. Je l'ai dit, je vais le répéter. La loi n'est pas là pour nettoyer, comme les faux enseignants cherchaient à démontrer dans leurs discussions sans fin. Non, la loi n'est pas là pour nettoyer, mais pour montrer la profondeur du mal dans nos cœurs. Et Paul continue avec les autres commandements. Le cinquième, honore ton père et ta mère. Eh bien, ici, ce commandement, il éclaire les patricides et les matricides, littéralement ceux qui tuent leur père et leur mère. Et rappelons-nous qu'avoir de la haine pour quelqu'un, c'est comme tuer. Hein, 1 Jean 3, 15, ou même dire imbécile est passible du même jugement, dans Matthieu 5, 22. Le sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre, éclaire les meurtriers, hein, littéralement les assassins d'hommes. Le septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, éclaire les débauchés, littéralement toute sexualité explicite. Là, je vous dis le mot en grec parce qu'il va vous dire quelque chose, c'est le mot pornos. Toute sexualité réelle ou virtuelle en dehors de ce cadre aimant et respectueux du mariage. Et le septième commandement éclaire aussi les homosexuels. Et ici, le terme utilisé est littéralement des hommes ayant des relations sexuelles. Il n'y a pas de doute possible de ce que c'est. Le huitième commandement, tu ne commettras pas de vol, éclaire les trafiquants d'esclaves, ou littéralement les voleurs d'hommes. Le neuvième commandement, tu ne diras pas de faux témoignages, éclaire les menteurs. Littéralement, c'est intéressant, littéralement quelqu'un qui casse la foi, qui trompe. Et le neuvième commandement éclaire aussi les parjures, littéralement ceux qui se mettent au-dessus des promesses. Je fais une promesse, mais je ne la tiens pas. Lorsqu'il est éclairé par la loi de Dieu, qui ici peut dire qu'il n'a pas de péché, lorsque nous sommes éclairés par la loi de Dieu, qui ici parmi nous peut dire qu'il n'a pas de péché ? Cela signifie en fait que nous sommes tous sous la juste colère de Dieu. Et je prie ici que chacun comprenne son état de pécheur. En fait, c'est le premier point des doctrines de la grâce de comprendre son état de perdu, que j'appelle la grâce désillusionnante, que d'autres nomment dépravation totale. Et je prie que chacun ici puisse saisir qu'il est pécheur, perdu sans Dieu. La grâce de saisir que tout a été touché par le péché, chacun nous sommes sous un juste jugement devant Dieu saint, notre Créateur, à qui nous devons rendre des comptes, est un élément important. Vous savez, la loi est bonne et son usage légitime est de nous permettre d'éclairer nos cœurs et de nous dire ce que Dieu aime. Mais la loi n'est pas là pour nettoyer. Comme les docteurs de la loi d'Éphèse voulaient le faire croire, eux qui n'étaient pas éclairés parce qu'ils ont même abandonné leur conscience, on le verra. La loi n'est pas là pour nettoyer, mais pour éclairer. Et si quelqu'un enseigne que c'est en suivant le commandement de Dieu que l'on peut être sauvé, que l'on peut racheter ses fautes, c'est comme s'il disait que la lumière nettoie. C'est un vain discours. Il faut le faire taire, c'est un mensonge, ce n'est pas de la saine doctrine, ce n'est pas le glorieux message de l'évangile du Dieu du bonheur. La pureté, l'amour pour Christ, c'est enlever ce qui peut prendre la gloire de l'évangile de Jésus-Christ, ce qui écarte nos regards pour nous mettre un poids de la loi qu'il faut suivre. Non, l'amour de Christ nous pousse à écarter ce qui prend sa gloire et qui écarte nos regards de lui pour nous mettre un poids sur nous. Vous savez, ce n'est même pas la loi qui est un poids. C'est nos péchés éclairés par la loi qui peuvent être un poids. Est-ce que la loi a éclairé votre cœur ? Est-ce que vous ressentez le poids de vos fautes ? Êtes-vous conscient que vos péchés vous condamnent justement ? Alors, si c'est le cas, restez avec moi. Parce que dans le deuxième point, Timothée doit se souvenir de l'Évangile. Comment avoir une bonne conscience ? Et Paul l'y amène en parlant de lui-même. C'est les versets 12 à 17. Et le deuxième point, la bonne conscience. Relisons les versets 12 à 17. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur, gloire, au siècle des siècles. Amen. Qui a fortifié Paul ? Le Christ Jésus, notre Seigneur. Qui l'a établi dans le service ? Mais le Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que Paul s'appuie sur un mérite quelconque ? Mais non, il nous dit clairement qu'il était blasphémateur. Il ne supportait pas que Jésus soit présenté comme étant Dieu et il parlait en mal de lui. Il injuriait ceux qui suivaient Jésus-Christ. Paul était un persécuteur. Il poursuivait les chrétiens, il les faisait mettre en prison, il approuvait leur mise à mort. Paul était un homme emporté, on pourrait dire arrogant et violent. En fait, je pense qu'on peut dire que c'était le pire ennemi humain de ceux qui suivaient Jésus-Christ en ce moment-là. Et là, Paul arrive avec l'Évangile. Il ne raconte pas de fables, ou parle de sa généalogie, ou fait de vains discours. Non, il vient avec l'Évangile de Jésus-Christ en disant « Il m'a été fait miséricorde ». La grâce de notre Seigneur a surabondé. Si le nombre de péchés de Paul était immense, la grâce de Dieu était encore plus grande. On pourrait dire que si Paul avait une dette de plusieurs milliards, la grâce du Seigneur pouvait payer à des milliards de Paul. Surabondant. Si vous cherchez un verset à méditer cet après-midi, méditez le verset 15. Il est magnifique. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. Lorsque Dieu éclaire notre péché, nous comprenons ce que Newton écrit dans son célèbre Amazing Grace, grâce incompréhensible. Quand il dit « That saved a wretch like me ». Qui sauva une épave, un misérable, un minable, une flaque infâme comme moi. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a été marchand d'esclaves, c'est parce qu'il connaissait le fond de son cœur. Et Paul, lui-même, lorsque Dieu éclaire son cœur, encore à la fin de sa vie, parce que Paul pouvait avoir ici 70 ans, ou 70 ans, pour les Français parmi nous, quand il écrit à Timothée, il dit non pas le pécheur dont j'étais le premier, mais le pécheur dont je suis le premier. Parce que c'est exactement ce qui nous arrive lorsque Dieu éclaire notre cœur. C'est exactement ce qui arrive lorsque Dieu éclaire notre cœur. Nous voyons tout le mal en nous et il est bien plus grand que tout le mal que nous pourrions voir en regardant les autres. Car nous voyons tous nos actes, nos paroles, nos pensées, nos attitudes, nos désirs, que personne d'autre que Dieu ne peut voir. Et c'est d'ailleurs un pas décisif vers le salut. Si vous ne vous êtes jamais vu comme le pire des pécheurs, alors je ne dis pas une réponse que vous donnez à quelqu'un pour faire plaisir, hein, ou bien pour vous faire accepter, non. Mais si vous ne vous êtes jamais vu comme le pire des pécheurs. Priez. Priez l'Éternel pour qu'il éclaire votre cœur. Utilisez la loi pour éclairer votre cœur. Mais ne l'utilisez pas pour nettoyer. Mais utilisez-la pour éclairer votre cœur. parce que c'est ainsi que vous saisirez le besoin de l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ qui a pris sur lui tous les péchés de ceux qui se repentent. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et Jésus a dit aussi en Jean 10, 11, « Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Paul est conscient de son péché. Il dit lui-même, « Je suis le plus grand pécheur. » Et tous ceux que Dieu éclaire diront la même chose. Je vous assure. Et si ça ne vous est pas arrivé, je prie que ça vous arrive. Et qu'en même temps, vous vous souveniez de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 1 Timothée 1, 16, 17, regarde avec moi. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas la loi qui a sauvé Paul, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi qui a sauvé Paul, c'est Jésus-Christ. Et il peut vous sauver encore aujourd'hui. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il faut simplement venir à lui en reconnaissant notre état pécheur, en faisant confiance en Christ qui a pris le juste jugement de Dieu qui pesait sur nous et qu'il devienne le roi souverain de notre vie. N'attendez pas d'être meilleur. N'attendez pas de faire ce que la loi demande. Ce n'est pas la loi qui nous sauve. La loi éclaire notre cœur. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Si vous pensez que c'est autre chose que Jésus qui vous sauve ou qu'il vous faut Jésus-Christ plus quelque chose d'autre, vous n'êtes plus dans la saine doctrine. Vous croyez à d'autres doctrines. Vous savez, la bonne conscience dont Paul parle ici, elle vient d'un éclairage qui est suivi d'un nettoyage. La bonne conscience vient d'un éclairage qui est suivi d'un nettoyage. Et si la loi éclaire, c'est Jésus-Christ qui nettoie. Si la loi éclaire, c'est Jésus-Christ qui nettoie, qui donne sa justice, qui donne sa sainteté, qui change notre nature et qui prend le contrôle de notre vie. Tout vient de... Tout vient de Jésus-Christ. Tout vient de Jésus-Christ, tout vient de Dieu, à qui nous voulons rendre gloire, honneur au siècle des siècles. L'apôtre Paul, quand il parle de l'évangile, de comment Dieu a transformé sa vie, il ne peut pas faire autre chose que de louer Dieu. Vous avez vu ce qu'il dit ? Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il le fait comme il le fait dans Romains d'ailleurs, quand il explique tout le salut, tout l'évangile. Il termine dans Romains 11, 36, « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Si notre premier point nous a aidé à comprendre la pureté, il faut écarter ce qui ne vient pas de Dieu. Si la loi est là comme un poids, si la loi est donnée pour les justes, la loi n'est pas pour les justes. Et nous sommes justes en Christ. La loi est là pour nous éclairer. Christ est là pour nous nettoyer. Ce deuxième point nous a aidé à saisir d'où peut venir une bonne conscience. Elle vient aussi de Christ. Elle vient aussi du fait que nous comprenons que nous sommes le plus grand des pécheurs. Alors là, j'ai une question à vous poser. D'où vous vient votre bonne conscience ? De Jésus-Christ ? Ou d'autres choses. Paul, guidé par l'Esprit, est conscient que l'évangile de Jésus-Christ se vit dans un monde déchu, que le Seigneur ne revient dans un monde déchu avant que le Seigneur ne revienne pour le jugement dernier. Donc il recommande à Timothée de combattre. C'est notre dernier point, le troisième point, que j'ai intitulé « La foi sans hypocrisie ». Et nous allons lire les versets 18 à 20. La recommandation, on retrouve ce terme ici. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Timothée ne doit pas suivre l'exemple de deux hommes qu'il a connus. Il les a connus, il était avec Paul à Éphèse. Et Paul les a écartés de l'Église. Alors non pas pour un rejet éternel, mais pour que ces hommes apprennent à ne pas blasphémer. Regardez bien le texte. Ils n'ont pas été rejetés pour l'éternité. C'est pas ça. S'ils sont livrés à Satan, comme il le dit, c'est pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le but de la discipline doit toujours être l'amour. Un amour qui désire le salut éternel de la personne disciplinée. Le but de la discipline, parce qu'ici c'est un cadre de discipline, doit toujours être l'amour et un amour qui désire le salut éternel de la personne disciplinée. Laisser quelqu'un dans son péché sans lui dire clairement et solennellement que sans repentance c'est la perdition éternelle, le juste jugement de Dieu, l'enfer, la colère de Dieu, laisser une personne dans son péché sans chercher un moyen pour lui apprendre à saisir son état, pour l'éclairer, lui montrer la voie de l'Évangile, c'est ne pas aimer cette personne. Trop souvent, nous laissons des personnes qui pêchent clairement, parce que c'est clairement éclairé par la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui éclaire le péché, ce n'est pas mon avis. Mais trop souvent, nous laissons des personnes qui pêchent clairement, parce que c'est clairement éclairé par la loi de Dieu, sans rien leur dire, sous couvert d'amour, de patience et de bienveillance. Mais s'ils meurent sans se repentir, ils sont éternellement dans la souffrance et la gêne. Est-ce de l'amour ? Paul n'a pas de haine envers Hyménée et Alexandre. Il a agi de manière à réveiller leur conscience qu'ils ont abandonnée. Paul invite Timothée à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. La foi et la bonne conscience, ça va ensemble. Et là, je vais vous donner une illustration qui vous permet de comprendre que ça va ensemble, une illustration de John Cook. Mais pour vous donner cette illustration, je dois d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un timonier. Un timonier, c'est un marin qui est sous l'ordre d'un commandant. Ça va ? Un marin qui est sous l'ordre d'un commandant. Et ce marin est responsable du timon. Voilà le nom, timonier. Et le timon, en fait, est une barre qui dirige le gouvernail qui oriente le bateau. Ça va ? Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, là. Donc, le timonier, c'est un marin qui est donc sous les ordres d'un commandant. Et ce marin est responsable du timon, qui est une barre qui dirige le gouvernail, qui oriente le bateau. Ça va ? OK. Donc, voilà l'illustration maintenant. On peut comparer la conscience au timonier. On peut comparer la conscience au timonier du navire qui transporte la cargaison de la foi. OK ? Donc on peut comparer la conscience au timonier du navire qui transporte la cargaison de la foi. Si on n'écoute pas sa voix, le navire dévira de sa route, s'échouera sur les rochers et la cargaison sera perdue par-dessus bord. La conscience est importante. La conscience est importante pour notre foi, mes chers frères et sœurs. Si votre conscience vous reprend, parce qu'un péché a été éclairé dans votre vie, ne résistez pas à la conscience. Courez vers Jésus-Christ. Parce que lui peut vous délivrer du péché. Parce que ne pas écouter sa conscience lorsqu'un péché est éclairé, c'est petit à petit l'abandonner. Et ainsi devenir capable de faire de grandes théories sur la vie chrétienne, sur la loi et même sur l'Évangile, mais ne pas le vivre et être perdu pour l'éternité. Est-ce que vous êtes repris par votre conscience ? Or, si votre conscience ne vous reprend plus, demandez à Dieu de restaurer cette conscience dans votre vie. Et si cette conscience vous reprend, ne péchez pas, allez vers Christ. S'il met le projecteur sur un péché dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous en libérer. En conclusion, reprenons 1 Timothée 1,5, que j'ai présenté comme étant une vue d'ensemble de ce premier chapitre. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Par amour pour Jésus-Christ et par amour pour tous ceux qui sont en Christ, il faut purifier, donc interdire les enseignements qui indiquent que la loi peut justifier, ou dit autrement, qu'il est possible de faire des œuvres pour être sauvé. Il faut écarter ces enseignements-là. Non et non, la bonne conscience ne peut être obtenue que par Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ. Rappelez le verset 15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est Christ qui sauve, ce n'est pas la loi. Pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Nous saisissons l'œuvre de Christ par la foi en gardant une bonne conscience. Et garder une bonne conscience, c'est continuer à faire confiance à Jésus-Christ lorsque notre conscience nous reprend. Lorsque notre conscience nous reprend, il ne faut pas fuir vers, loin de Jésus, c'est le moment d'aller vers lui. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte. J'ai tellement honte. J'ai même envie de ne pas venir vers toi parce que j'ai honte de venir vers toi avec mon péché. Mais c'est là qu'il me dit, viens, je suis venu pour ça. Je suis mort pour te libérer de ton péché. Nous allons alors nous repentir, saisir son œuvre par la foi, mettant toutes nos capacités à grandir dans la sainteté en réponse à l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ qui nous donne sa justice et sa sainteté. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que l'apôtre Paul, guidé par l'Esprit-Saint, a écrit cette lettre à Timothée. Il y a des sujets qui ne sont pas faciles parce qu'on n'a pas envie de reprendre, on n'a pas envie de faire le tri, on n'a souvent pas envie de dire ce qui est faux. Ça nous demande de l'énergie, on a besoin d'être courageux, on a besoin de parfois même faire face à des personnes que nous aimons, leur dire que ce n'est pas juste face à ta parole. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons été paresseux, où nous avons été des couards. Nous avons été des personnes qui n'ont pas vécu selon ton évangile, qui n'ont pas vécu un amour pour toi ardent, qui désirent que Christ soit le centre, que Christ soit glorifié, que Christ seul soit vu comme celui qui est le sauveur et rien d'autre. Oh pardon Seigneur, parce que trop souvent même dans notre vie, lorsque nous réussissons à vivre des journées où ça se passe bien, où on a été une bonne personne, eh bien on s'en glorifie Seigneur, pardon. C'est toi qui nous donnes cette grâce. Et c'est tellement bon de te glorifier, c'est tellement bon de te mettre en avant, c'est tellement bon de nous souvenir que tout vient de toi. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à ne pas mal utiliser la loi. Celui qui est en Christ n'a aucune condamnation. La loi n'est pas là pour le condamner. Mais la loi est là, Seigneur, et tu nous la donnes pour éclairer nos cœurs, pour montrer nos péchés, afin que nous venions vers toi pour les purifier, pour nous purifier, nous en libérer. Et j'aimerais, Seigneur, te prier du fond de mon cœur pour chacun ici, que chacun puisse saisir et comprendre ce que signifie « Je suis le pire pécheur » et en même temps qu'il puisse saisir l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, qui est une œuvre qui nous purifie, qui surabonde, qui peut payer, on pourrait dire, plus que ce que nous avons fait. Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner cette joie de connaître ce salut en Jésus-Christ d'une façon telle que nous voulons le garder pur et que nous désirons le partager et que chaque fois que nous nous en rendons compte et que nous nous en souvenons, eh bien que comme Paul, nous voulions te glorifier et te dire « À toi soit tout l'honneur et la gloire ». Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.